Les infos choisies
chaque vendredi de 12h30 à 13h
sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Et bonjour, bonjour. C'est les infos choisies. On est le vendredi 19 septembre 2024. Il est 12h32. Vous nous écoutez en direct à Marseille sur Radio Galère 88.4 FM ou en DAB+, ou aussi en rediffusion via le site radiogalère.org, mais aussi en Avignon sur Radio Ayoli. Aujourd'hui, on va parler de la colère en Martinique, de suicides en prison, de statut colonial, de répression aux frontières, de lutte de travailleuses agricoles dans la région. Mais aussi, on va se demander comment abolir la police. Et oui.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et merci à la collègue de la technique qui a sauté au pied levé pour nous soutenir. Alors, ça chauffe en Martinique. Je vais vous lire un petit extrait d'un article publié hier sur le blog de bondamandjak.com. Sur toutes les chaînes de la télévision de France et de Navarre, ce matin, c'est à qui mieux tentera d'apporter une réponse à cette cruciale question : que se passe-t-il à la Martinique ? Les plus éminents commentateurs expliquent que c'est à cause de la vie chère que les Martiniquais pètent un plomb. Est-ce une incapacité de raisonner lucidement ? Est-ce une ignorance de l'histoire ? Est-ce une culpabilité suprémaciste qui ne dit pas son nom ? En fait, il se passe, concept difficile à traduire en « foincer de l'eau dépassée farin ». Il se passe que le système mis en place par la France dans toutes les anciennes colonies a vécu. Il se passe que la France n'a plus d'argent, 3000 milliards de déficit, bloque le système dans sa capacité à apporter une réponse convaincante aux questions que le peuple pose hier sourdement, abstention massive aux élections, vote. Vote aussi massif que paradoxalement pour le RN et aujourd'hui réponse violente dans la rue qui trouve un écho dans la révolte des Kanaks. Le peuple a faim, le peuple en a gros sur la patate, le peuple n'en peut plus de cette profitation qui fait la fortune d'un petit groupe de sangsues avides. Ajoutez à cela l'indicible nullité de nos élus, qui ont pieds et mains liés pas seulement par leur incompétence, mais surtout par la complicité en bafeille, car une élection coûte cher et que le système colonial a toujours su donner les moyens aux candidats, quels qu'ils soient, de faire campagne en assumant d'être les débiteurs, donc les nouveaux esclaves des maîtres de la Martinique.
Eh, c'est les infos choisies.
Bonjour, c'est Kala et je vais vous parler d'une soirée de solidarité dont j'ai assisté hier. C'était très intéressant, donc je me disais, je vais vous parler de ça. C'était une soirée de solidarité autour de personnes accusées d'être passeurs en Méditerranée. En fait, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont actuellement en prison, notamment en Italie, qui sont accusées d'avoir conduit les bateaux avec lesquels elles ont traversé la Méditerranée. Et de s'être rendu coupable de passage en bateau. La plupart du temps, dès que l'on aperçoit des bateaux en Méditerranée, ou plutôt pas on, mais peut-être Frontex, Frontex recherche de manière ciblée des personnes qui pourront être accusées de, plus tard pour être des passeurs. Donc dans la grande majorité de cas, ces personnes ne sont pas des personnes qui fuient comme, ces personnes sont des personnes qui fuient comme tout le monde sur le bateau. Ils n'ont pas une grande expérience de conduite d'un bateau. Ils ont accepté de piloter le bateau parce que sinon le bateau aurait chaviré avec toutes les personnes à bord. Les personnes concernées par l'allure d'elles-mêmes de capitaine parce que ça montre mieux le rôle qu'ils jouent. Ils se sont déclarés prêtes à diriger le bateau pour qu'il ne chavire pas. Mais souvent, cette accusation de passeur concerne même également des personnes qui n'ont pas du tout piloté le bateau, des personnes qui sont juste là, qui sont là présents sur le bateau. Et ces personnes sont souvent envoyées directement en prison ou en détention provisoire, souvent sans parler de la langue, sans savoir comment parler de la langue du pays et encore moins comprendre la situation qui se passe. La construction du passage en bateau est utilisée pour les États européens, comme l'Italie par exemple, pour se soustraire de la responsabilité des personnes dans le bateau. Et en effet, si le bateau chavire et que des personnes meurent, les personnes identifiées comme des passeurs sont également accusées de meurtre ou d'homicide par négligence. Et donc tout se passe comme si une telle personne devait être réparée à chaque arrivée de bateau. Quoi qu'il s'agisse de femmes avec des enfants mineurs, comme dans le cas de Mariam, une jeune femme qui a été libérée il y a 2 jours de prison, ou d'hommes qui sont juste devenus majeurs, ou aussi des militants comme Maïsoun. Et donc la soirée hier, c'était autour de Maïsoun, le cas de Maïsoun. Je parlais avec une de nos organisatrices qui nous explique peu de quoi qu'il s'agit dans le cas de Maïsoun.
Maïsoun, elle est arrivée en Italie en décembre 2023 avec un bateau et elle a été arrêtée par la police italienne et enfin par la garde-côte italienne et les agents de Frontex. Elle a été accusée d'avoir organisé le voyage et d'avoir donc conduit le bateau sur lequel voyageaient 77 personnes et donc ça fait plus de 200 jours qu'elle est emprisonnée, plus de 9 mois, dans une prison en Calabre, dans des conditions très très dures. Elle a déjà entamé 2 grèves dès la fin par rapport à son enfermement. Et hier a eu lieu la deuxième audience de son procès, dans lequel ont été entendus les témoins de l'accusation et dans lequel on a refusé donc encore une fois sa demande de mise en liberté, en accueillant l'hypothèse de la procureure qui donc, elle, pense que Maïsoun est la passeuse qui a organisé ce voyage, donc qui a pris de l'argent pour faire ça. Donc il y a des camarades d'Italie, de Calabre, qui ont décidé de créer un comité de soutien à Maïsoun et qui donc sont allés plusieurs fois devant la prison où elle est enfermée pour lui apporter du soutien, qui lui écrivent régulièrement et qui suivent les aspects légaux du procès. Et qui en particulier en ce moment récolte de l'argent pour faire venir en Italie la personne qui, selon les autorités, aurait identifié Maïsoun en tant que conductrice du bateau, qui se trouve actuellement en Allemagne. À savoir que cette personne, elle a déclaré que, en fait, elle a jamais identifié Maïsoun comme conductrice du bateau, mais qu'il y a eu une erreur de traduction. Il n'y avait pas d'interprète du farsi, et donc ces phrases ont été travisées, mal traduites, et c'est suite à ça que Maïsoun se trouve aujourd'hui enfermé en prison. On tient aussi à rappeler que en fait, cette histoire, c'est une histoire qui en fait un peu plus de bruit. Et donc, on sait ce qui se passe et tout, mais c'est des histoires qui arrivent régulièrement. Il y a des centaines de personnes qui se font arrêter aux frontières de l'Europe, donc que ce soit les frontières nord, est, ouest ou sud de l'Europe, et qui ont donc des procès qui durent des années avec ces chefs d'inculpation avoir organisé les voyages de manière illégale. Et avoir pris de l'argent pour ramener des gens sur les côtes européennes.
Maïsoun, c'est donc une des cas plus connus de ce qu'on appelle scafismo, c'est un terme italien qui signifie passeur. Son procès a commencé il y a 2 jours et il y a d'autres dates prévues d'ici la fin de l'année. Donc actuellement, il existe une campagne de solidarité qui vise surtout à apporter des informations vers les prisons et collecter de l'argent pour le procès et aussi d'attention. Mais il existe également des autres collectifs pour de nombreux autres cas qui soutiennent des personnes en prison et attirent l'attention sur les abus de cette accusation de passeur, comme par exemple le Baïfal de Maldusa à Lampedusa. Alors si vous avez du temps, des nerfs ou de l'argent, informez-vous, écrivez des lettres, donnez de l'argent et n'oubliez pas les personnes en prison.
Merci. Et on continue du coup toujours en parlant de personnes exilées. Donc là, par rapport à, on va vous donner un peu des nouvelles des mineurs isolés à Marseille qui reviennent souvent dans l'actualité malheureusement. Ils sont toujours aussi dénigrés. Ils continuent de lutter pour que le département fasse son boulot et leur permette d'accéder à leurs droits, à un logement, à des soins, à la scolarité, etc. Mercredi soir, donc avant-hier, 16 jeunes ont occupé le kiosque Léon Blum sur la Canebière à Marseille. Et dès jeudi soir, le lendemain, ils ont été relogés dans des hôtels. Occupation express, on comprend le message, on ne veut pas vous voir sur la place publique. Express sera aussi probablement cet hébergement, jusqu'à ce que l'ADAP mette de nouveau les jeunes dehors. Pour rappel, l'ADAP 13, c'est l'assaut missionné par le département pour prendre en charge les mineurs. En gros, la situation ne change pas. Ce kiosque était occupé il y a 2 ans suite à l'évacuation du 113, bâtiment occupé sur la Canebière. Il a été à nouveau occupé il y a 1 an par les jeunes qui ont ensuite posé leur tente devant le lycée Thiers. Cette année ont eu lieu plusieurs occupations d'églises et des campements. Aujourd'hui, plus de 50 personnes vivent dans 5 squats dans des conditions précaires. On constate qu'il n'y a toujours pas d'ouverture de foyer à l'horizon, mais plutôt une remise en question sans cesse de leurs paroles. Comme ils le disent haut et fort, nous ne sommes pas le danger, nous sommes en danger. Ces jeunes sont des enfants et doivent être traités comme tels.
Je me suis levée ce matin, cerveau en miettes, déçu des gens que je pense connaître, dégoûté de moi et de mes promesses, entouré de tous ces requins. Et après le crawl auprès de la fille, j'ai gratté un chrome. Tu penses vraiment que je compte laisser ma chance passer, monter de stress? J'ai fumé trop de cigarettes, nique le stream. Je veux traîner un cigarette. Tu ferais toujours ma musique si ma carrière s'arrête. J'irai taffer à l'usine si demain ça merde, monter de stress. J'ai fumé trop de cigarettes en bas du Banks. J'ai vite éclaté ma canette. Pas de succès seul, j'aurai des successeurs. Je le fais pour guérir et je le fais surtout pour mes sœurs. Atika, Atika. Pour mieux dépasser les bornes, pour mieux dépasser les limites, pour mieux déconstruire les normes. Quand on donne chez moi, on donne. Je vois toutes les couleurs, mais je me sens comme Daltonien. Comment mettre bien les miens? Des idées, y'en a à mille, mais les poches sont empty. Au dire à la vingtaine, vos rappeurs, on m'appelle empty. Seul, tu fais pas grand chose, tu sais. C'est quand on est ensemble que ça remplit. C'est quand on est ensemble qu'en face ça se replie. Atika, Atika.
Bonjour à toutes et à tous, ici Célino. J'aimerais vous parler encore une fois des jeunes qui ont repris pour certains d'entre eux l'école, qui ont repris une formation ou alors qui attendent de pouvoir être inscrits quelque part. On renouvelle tous nos encouragements et notre soutien pour ce début d'année à toutes et à tous. On aimerait aussi partager nos pensées, nos cœurs, nos forces avec tous les proches de ceux qui ont disparu en prison ou dans les quartiers depuis cette année. Le dimanche 8 septembre dernier, un jeune de 24 ans s'est pendu dans la prison de Luynes alors qu'il y était entré le 30 mars pour une peine liée à des vols et qu'il devait avoir rapidement une remise de peine. Dès son arrivée, il a été rapidement harcelé et violenté par des co-détenus. Sa compagne a été contactée sans qu'elle sache encore comment cela a été possible pour qu'elle donne de l'argent si elle ne voulait pas qu'on tue ou qu'on violente encore plus son compagnon. Malgré au moins 4 signalements aux autorités pénitentiaires, il n'y a pas eu de suivi ni de soutien qui a été mis en place pour sortir le jeune de sa situation. La compagne de ce garçon portera certainement plainte après les obsèques qui auront lieu en Algérie et aura besoin de soutien pour continuer toutes ses démarches. D'autres personnes se sont pendues dans cette même prison depuis le début de l'année dans le plus grand silence. On voulait aussi apporter un immense soutien et dire un immense merci à toutes les personnes et les familles qui ont défilé samedi dernier, 14 septembre, à partir de 15h au départ de la Joliette, pour porter hommage à toutes les victimes de jeunes liées au règlement de compte et au trafic et aux violences dans les quartiers. Intitulée « La marche pour la paix et la justice dans nos quartiers », organisée par le collectif des maires de Marseille, qu'on remercie particulièrement, la marche avait aussi vocation à sensibiliser tout le monde sur les ravages et la détresse causés par ce qu'on peut appeler parfois le narco-banditisme. Merci.
Et on continue avec d'autres nouvelles qui, on espère, vont nous donner de la force. On va parler un peu des luttes agricoles dans la région. Et déjà, on vous conseille d'écouter ou de réécouter la remarquable enquête sonore de Hélène Servelle et Tiphaine Hermelin, travailleurs détachés, les dessous d'une exploitation, sur l'exploitation des travailleuses saisonnières étrangères dans les Bouches-du-Rhône et leur lutte pour réclamer vérité et justice pour Elio Maldonado, ouvrier équatorien de 32 ans mort dans les serres en 2011. Vous pouvez retrouver cette enquête dans l'émission Camarades Libre Débat du 18 septembre sur le site de Radio Galère. Et ce documentaire résonne fort avec la tribune publiée le 13 septembre dernier sur le journal Libération. Ça s'intitule « Vendange, il est urgent de rétablir le repos hebdomadaire des saisonniers » qui demande l'abrogation du décret passé il y a quelques jours après le deuxième tour des législatives autorisant la suspension du repos hebdomadaire pendant les vendanges. Un décret qui est la mise en place directe d'une proposition de loi du Rassemblement national. Le syndicat solidaire a lancé un recours pour abrogation, donc pour que les congés des vendangeuses soient maintenus. Vous pouvez lire le texte sur le site de solidaire.org. Enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois aux infos, dans le Vaucluse, 17 travailleurs saisonniers agricoles marocains sont toujours en lutte depuis un an. Plus d'infos sur le site de basta.media, il y a un article du 22 janvier 2024. Ils ont toujours besoin de soutien et ça passe notamment par une visibilité et un soutien financier. Accédez à la cagnotte en ligne sur le site de Papayou Solidarité. Si tu tapes dans la recherche les mots « travailleurs agricoles », tu vas la trouver. Merci pour votre soutien.
Je crois qu'ils n'écoutent pas.
Sûr, on les a perdus.
Oh, t'écoutes ou quoi?
On est là. Viens.
Ouh, oh, t'écoutes ou quoi?
On est là, viens, c'est bien.
Et sinon, moi, en ce moment, je lis un bouquin qui s'appelle « En attendant qu'on se libère vers une justice sans police ni prison » aux éditions Hors d'atteinte. Clin d'œil à la collègue Carla à côté de moi qui fait un stage là-bas. Et c'est écrit par Mariam Kaba, une militante, enseignante et autrice états-unienne. Ce bouquin regroupe plein de textes qu'elle a écrits, mais aussi des entretiens et des analyses de situations très concrètes. Ça se lit facilement et c'est hyper carré. Je ne l'ai pas encore fini, mais je voulais vous proposer quelques extraits. Là, je vais vous lire un bout du texte qui s'appelle « Le système n'est pas défaillant », qui est paru en juin 2015, où elle décrit pourquoi elle appréhende l'été à venir. Lorsque, il y a quelques semaines, les policiers de Baltimore, vêtus de tenues anti-émeutes, ont eu recours à la violence contre des lycéens dans le centre commercial de Mondawin, certains étaient horrifiés. « Ce sont des enfants !» se sont exclamés des témoins du drame sur les réseaux sociaux. J'ai pensé avec tristesse à la vision que devaient avoir les policiers de la situation. Il n'y a aucun enfant ici, seulement des cibles et des menaces. Des études en sciences sociales suggèrent que les policiers voient les enfants noirs comme plus âgés et moins innocents que les enfants blancs. Elles confirment ce que la plupart d'entre nous savent déjà. Les enfants noirs sont considérés comme des mini-adultes dont on peut disposer comme on le souhaite, mais dangereux. L'histoire témoigne du caractère insoluble de la question des violences policières. Alors, que faut-il faire? Tout simplement, nous devons en finir avec la police. Son hégémonie est totale, à tel point que nous peinons même à imaginer que le monde puisse fonctionner sans elle. Nous sommes trop dépendants de l'institution policière. En effet, La police accroît sa légitimité grâce à toutes les tâches non policières qu'elle assume, comme celle qui consiste à surveiller le bien-être et la santé mentale de la population. Pourquoi des gens armés devraient-ils faire le travail des membres de la communauté et des travailleurs sociaux ? Pourquoi acceptons-nous si facilement de céder autant de pouvoir à la police ? Tout débat sur la nécessité de réformer la police doit commencer par les questions suivantes. Comment allons-nous réduire le nombre de policiers et comment allons-nous cesser de financer l'institution policière? Sur la voie qui mène à l'abolition, nous pouvons prendre un certain nombre de mesures intermédiaires pour réduire les forces de police et restructurer nos relations mutuelles. Par exemple, nous organiser pour réduire de façon drastique les budgets alloués à la police et les réorienter vers d'autres biens sociaux. Suppression du financement de la police. Mettre fin aux cautions en espèces. Annuler la déclaration des droits de la police, supprimer les syndicats de policiers, évincer la police de nos communautés, désarmer la police, inventer des slogans abolitionnistes qui pénètrent la conscience collective afin de remettre en cause l'amalgame police égale sécurité. Mettre en place des mesures communautaires qui prennent en charge les préjudices sans faire appel à la police. Évaluer toute réforme en fonction de ces critères. Réfléchir à la suppression de la police et imaginer des alternatives. Surtout, nous devons rejeter tout discours selon lequel le maintien de l'ordre par la police et le système de sanctions pénales dans son ensemble sont défaillants ou ne fonctionnent pas. Sur le plan de la rhétorique, définir le système de sanctions pénales comme défaillant réaffirme la nécessité de le réformer et présente son abolition comme une mesure irréaliste et inapplicable. Celles et ceux qui soutiennent qu'il est impossible de réformer ce système dans le contexte actuel sont ainsi considérés comme déraisonnables et naïfs. Les formations idéologiques opèrent souvent de manière invisible pour définir et tracer les frontières de ce qui constitue un discours acceptable. Les remises en cause des idéologies dominantes au sujet de la justice suscitent de la colère et des moqueries, ou sont tout simplement ignorées. Cela bénéficie à ceux qui tirent profit du système actuel et contribue à renforcer la suprématie blanche et le racisme anti-noir. Les perdants de ce système fondé sur l'injustice sont les jeunes que je connais et que j'aime. J'appréhende vraiment l'été. Donc ça, c'était un tout petit extrait du livre, et certes, c'est dans un contexte états-unien, tout ne s'applique pas au système... lié à la police et au système carcéral en France, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'idées à piocher et qui font réfléchir. Je ne savais plus s'il y avait une virgule sonore ou pas, mais on va dire, il n'y en a pas. J'enchaîne. Du coup, le dernier sujet, ça parle des statues coloniales. On en reparlera dans l'agenda, mais l'excellente équipe d'Histoire Crépue, c'est une chaîne YouTube qui parle d'histoire coloniale, a réalisé un docu sur les statues coloniales en France. C'est en 4 épisodes et la série sera projetée dans 2 cinémas à Marseille mardi et mercredi prochain en présence de l'équipe d'Histoire Crépue. Et en attendant, on s'écoute la bande-annonce.
Bam, boum. Tout a commencé en Martinique, un département d'outre-mer français. Le 22 mai, un groupe de militants déboulonne une statue de Victor Schœlcher. La République est scandalisée, mais elle est loin d'imaginer ce qui va suivre. 3 jours plus tard, aux États-Unis, la police assassine un homme afro-américain sous le regard des caméras. La planète entière découvre avec horreur le supplice de George Floyd. Et partout dans le monde occidental, les statues coloniales se mettent à tomber. Partout, sauf en France métropolitaine. Un jour, on a bien recouvert la statue de Gallieni avec un tissu noir. On s'est fait choper, j'ai passé quelques heures au poste de police, mais ça reste très symbolique. En réalité, aucun déboulonnage n'a été fait en France européenne. Pourtant, l'opinion publique française est terrifiée à l'idée qu'on puisse effacer son histoire. Alors, je me pose une question simple. Est-ce que la France connaît véritablement l'histoire de ces statues coloniales?
il y a plein de statuts que les gens ne regardent jamais. On ne s'est jamais tant intéressé aux statuts qu'en 2020, au moment où tout le monde voulait en déboulonner.
C'est quand il y a des groupes, des associations qui disent « Non, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Il n'a pas à être là. » Et là, tout le monde dit « Ah, mais non, mais c'est l'histoire. Non, vous ne touchez pas. »
La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle ne déboulonnera pas de statuts.
Enfin, j'essaie de me mettre difficilement dans la tête de ces gens-là qui doivent se dire « Ah, on a une statue, c'est notre patrimoine, c'est à nous. » Et puis il y a des espèces de zigotos là, qui viennent nous la détruire ou nous la supprimer. C'est à nous, c'est notre bien.
Les statues ont été enlevées dans l'histoire. Ce n'est pas vrai quand on nous dit qu'elles n'ont pas été enlevées. Ce n'est pas vrai, la République a enlevé des statues.
Ceux qui ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore ont peur de quelque chose qu'ils mesurent parfaitement. Hein. Ils ont cette grande peur de devoir regarder avec les descendants de ceux qui étaient de l'autre côté du miroir une histoire commune. Ils en ont peur.
L'histoire coloniale française est très ignorée parce qu'elle est très peu enseignée. Comment voulez-vous savoir quelque chose que jamais personne ne vous a enseigné ?
Et aujourd'hui, ce n'est pas les bruits que ça fait qui sont problématiques, c'est le silence sur ce passé colonial qui pose problème en France.
De l'agenda qui est très chargé cette semaine et il nous reste très peu de temps donc on va commencer vite. Aujourd'hui, vendredi 20 septembre, c'est la sortie du super magasin Soin, le troisième numéro. Il y a un rendez-vous à partir de 18h au bar Jo, c'est le 91 rue Belle de Mai.
Aussi ce soir à 18h30 au local de Solidaire, 29 boulevard Longchamp, le FUQP, Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, organise une rencontre publique avec Saïd Bouamama autour du livre « Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient ». Il y aura un repas et un buffet à prix libre.
Et le FUIQP, c'est le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, qui ont un site internet très fourni et on vous conseille d'aller y faire un tour. Et toujours ce soir, vendredi à 19h à l'Hydromiltet, la librairie près de La Plaine, soirée de présentation de la revue Panthère Première. Pour la 9e édition, on se penchera sur le travail dans les mondes paysans avec un prisme féministe.
Et ce samedi à 17h30 à la librairie Transit, c'est au boulevard de Libération près des Réformes à Marseille, il y aura une présentation de la domination blanche avec Solène Brune.
Tous les lundis, de 10h à 12h à la DAR, 127 rue d'Aubagne, le café des Chaumereuses, moment convivial pour se retrouver, se rencontrer entre précaires et sortir de l'isolement. S'entraider pour affronter nos doutes et nos galères ensemble, discuter de notre rapport au travail et partager nos questionnements. Trouver des occupations et des camarades pour envisager avec joie nos activités.
Lundi 23 de 18h à 23h, à l'occasion de la journée de visibilité BIPAN et de la lutte contre la biphobie et le monosexisme, rencontrons-nous autour d'un verre, atelier fanzine, discussion info-kiosque, en mixité choisie BIPAN, plurisexuel, fluide et en questionnement. Ça se passe au centre LGBTQIA+, 21 rue du Chevalier Rose, près du Vieux-Port à Marseille.
Et une interroga s'est créée autour de la journée du 28 septembre. C'est la journée internationale pour le droit à l'avortement. Plusieurs événements sont organisés, dont le prochain lundi, le 23 septembre, à 18h30, au planning familial de Marseille. Il y aura une arpentage de discussion, l'avortement sans délai, une revendication, arpentage de la brochure, réflexion autour d'un tabou, l'infanticide et ou de l'article, les avortements en délai dépassés, derrière le stigmate, le travail abortif de femmes.
Et lundi 23 aussi, de 19h à 22h, un apéro barbecue d'accueil par la Bibli Féministe au 91 rue Loubon à la Belle de Mai. Vous pouvez venir visiter la Bibli des héroïnes, rencontrer l'équipe derrière tout ça, manger, voir les bouquins, l'espace, proposer des ateliers pour cette nouvelle année. Donc si vous rêvez de rejoindre la Bibli ou si vous êtes encore jamais motivé à venir, c'est le moment. Ce sera en mixité, minorité de genre, meuf, trans, non-binaire, intersexe.
Le lendemain, mardi, à 18h30 au Vieux-Port, le collectif Soutien Kanaki 13 organise un rassemblement pour dire stop à la colonisation française.
Et toujours le mardi, à 18h30, au local de l'AOP, 62 boulevard du Jardin Zoologique, dans le 4e, il y aura une permanence d'accès aux droits sociaux pour les étrangères avec ou sans papier. Le AOP, c'est l'association des usagers de la PADAR de Marseille.
Toujours mardi, 19h, comme on vous disait au cinéma, le Gyptis à Belle de Mai, Nos statues coloniales, une série de Someboy Vrenom et Réa Simon, épisodes 1 et 2. Projection suivie d'un échange avec les auteurs et les réalisateurs de cette super chaîne YouTube d'Histoire Crépu.
Et le lendemain, mercredi 25 à 19h, il y aura la suite, donc les deux derniers épisodes de ce documentaire, mais ça se passera au Polygone Étoilé, un autre cinéma pas loin, vers La Joliette, au 1 rue Massabo. La séance a pris libre, mais il est conseillé de venir à l'heure, comme le nombre de places est limité.
Et le mardi, mercredi après-midi, il y a la reprise de permanence de l'imprimerie solidaire entre 14 et 18h au 60 rue Edmond Rostand, près de la Castellane. La permanence est ouverte à tous sans rendez-vous et permet l'impression à prix libre.
Et toujours dans la perspective de la manif du 28 pour la journée internationale pour le droit à l'avortement, il y a un atelier de banderoles et de pancartes.
À la Plaine.
Et donc ça, ouais, c'est à La Plaine, à partir de 14h.
Bien sûr. Et le mercredi, toujours de 17h à 19h30 à la Casa Consola près de Réformé, soirée de lancement des éditions thermiques par le collectif QX1. Présentation, atelier et dîner à 20h.
Et on passe au jeudi à 19h, il y a à la librairie Transit une rencontre, une présentation de Evo Corseron Calès. Avec Joël Sambi et Eric Anomini.
Ah oui, pardon. Vas-y.
Vendredi 27 au matin, place Cadenas à la Belle de Mai, c'est place aux solidarités avec de nombreux collectifs et assos du quartier sur place pour parler accès aux droits. Il y aura un plateau spécial des infos choisies.
Voilà, donc vous pouvez aussi venir nous rencontrer directement vendredi, place Cadenas. Et enfin, on vous rappelle que Radio Galère galère et on a besoin de Moulaga pour se racheter une table de mixage. Allez sur le site de radiogalère.org pour avoir plus d'infos et savoir comment donner de l'argent. Merci, c'est la fin des infos choisies. Merci beaucoup à Noé de nous avoir soutenus sur la technique. Merci Carla, merci Célino.
Merci.
Merci, bonne journée.
Et beau week-end, à bientôt.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.